Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mes bien chers frères, au fur et à mesure que s'approche la fin de l'année liturgique qui nous permet de contempler la fin du monde, eh bien, le Seigneur nous incite à lever les yeux vers le ciel et à contempler le royaume des cieux. Je vais voir dans un premier temps ce qu'on peut dire de ce royaume des cieux, comment on le connaît, et dans un deuxième temps, comment on le propage. Tout d'abord, qu'est-ce que ce royaume des cieux? Ce royaume du ciel, ce royaume de Dieu, diverses expressions. Ce qu'il est, d'abord, est facile à dire négativement, nous savons qu'il n'est pas de ce monde. Le Christ l'a répété suffisamment souvent, ce n'est pas un royaume fait de main d'homme, ce n'est pas un gouvernement humain. C'est une tentation contre laquelle, nous devons nous battre, contre laquelle l'Église s'est beaucoup battue tout au long de son histoire, qu'on réduise le pouvoir spirituel à n'être qu'un pouvoir divin. L'Église a toujours connu cette contradiction, que ce soit sous l'Empire romain, où elle a dû se battre contre la dévotion rendue à l'empereur, que ce soit dans les persécutions, que cela soit ensuite dans l'établissement de la chrétienté. L'Église a toujours dû se départir de cette tentation que le pouvoir humain a d'asservir le pouvoir divin. Notre royaume se trouve dans les cieux. Et jusque aujourd'hui, jusque dernièrement, au XXe siècle, les plus grandes tentatives de réduire le pouvoir de Dieu à la hauteur humaine s'est vu réaliser dans des matérialismes abjects, celui du marxisme qui empêche qu'on puisse regarder les cieux, celui du fascisme qui nous fait croire que les cieux se trouvent dans une race ou un État, celui peut-être encore plus insidieux qui survit encore, d'un libéralisme matérialiste qui veut nous faire croire que Dieu réside dans le bonheur de la matière. Oui, nous devons sans cesse nous départir de ce danger de réduire les cieux à hauteur humaine. Ce que nous espérons ne se trouve pas maintenant, mais voilà, la tension, c'est que nous sommes ici et maintenant. La Jérusalem céleste qui descendra parée, toute prête comme une fiancée du haut des cieux, nous la préparons déjà dans notre cœur, car nous voulons qu'elle règne sur nous, cette Jérusalem céleste. C'est-à-dire que, alors que nous sommes encore ici sur terre, nous voulons nous préparer à la venue du royaume des cieux, mais pas nous y préparer en songe, mais nous y préparer en réalité, dans l'action, dans la réalisation jour après jour de notre état de chrétien qui doit nous donner de voir régner le Christ dans nos cœurs, régner le Christ dans nos familles, régner le Christ dans notre cité, régner le Christ dans le monde. Voilà le sens de la fête du Christ roi, de cette fête que nous pouvons contempler en cette fin d'année liturgique comme l'aboutissement du royaume des cieux qui s'étendra bien sur la terre. Notre Seigneur fait connaître ce royaume tout au long de sa prédication par de nombreuses paraboles. Ici, il nous en est donné deux, le grain de sénevé et le vin dans la farine. Je voudrais, avant de les aborder, bien vous dire que si le Seigneur parle en parabole, puisqu'il s'en explique clairement, ce n'est pas pour nous cacher quelque chose, c'est tout l'inverse. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que tout au long de l'histoire de l'Église, en fait, vous savez, les erreurs courent tout le temps, elles courent toujours, parce qu'on ne peut pas inventer sans cesse de nouvelles erreurs, mais l'erreur du gnosticisme, la gnose au non-menteur, c'est-à-dire la fausse connaissance, qu'on a connu du 2e au 4e siècle, mais qui, ça et là, arrive à survivre, c'est de se dire il y a quelque chose de caché, quelque chose d'intérieur qu'on ne peut pas savoir immédiatement, quelque chose qu'il faudrait connaître en étant initié, par exemple. Eh bien non, mes bien chers frères, tout se trouve dans l'Écriture sainte. Tout se trouve dans la tradition de l'Église qui nous donne cette Écriture, et le magistère nous rend clairement accessible toutes les vérités de la foi nécessaires à notre salut et à celui du monde. Ce faux gnosticisme se retrouve aujourd'hui encore dans d'espèces de pseudo-intellectualisme spiritualiste, se retrouve dans des résurgences du gnosticisme, c'est vieux maintenant, ça a 15 ans, mais souvenez-vous du Da Vinci Code, un livre d'un ennui profond, j'ai pas réussi à le terminer, mais qui marchait exactement sur ce principe. Il y a quelque chose de caché derrière l'évangile, derrière l'église, derrière quelque chose, un truc qu'on va vous révéler, et comme vous êtes intelligent, vous allez comprendre. Eh bien, mes bien chers frères, ne tombez pas dans ce piège grossier. Si le Seigneur parle en parabole, c'est pour s'exprimer clairement. Quand vous racontez une fable à des enfants, quand vous leur ce qui c'est une parabole, le lièvre à la tortue, c'est une parabole civile, elle n'est pas religieuse, mais c'est une parabole. C'est dire en image quelque chose, ce n'est pas pour lui cacher ce que vous avez à lui dire, c'est pour lui dire d'une manière imagée qui va frapper son esprit et qui va clairement établir en lui qu'il faut qu'il travaille tout de suite, même s'il a des capacités, sinon il va se faire doubler par les tortues, c'est-à-dire ceux qu'il croyait moins bons que lui. Bref, quand vous utilisez une parabole, ce n'est pas pour cacher quelque chose, c'est pour le dévoiler. Voilà ce qui, je peux dire, du royaume des cieux, enfin, une très légère évocation. Alors voyons, mes bien chers frères, comment nous allons faire pour entrer dans ce royaume des cieux? Comment nous allons faire pour réaliser en nous cette place nécessaire au royaume des cieux? Deux moyens fondamentaux, les moyens naturels et les moyens surnaturels. Les moyens naturels, et il nous appartient humainement de les mettre en œuvre, on pourrait dire qu'ils sont de deux sortes. D'abord, ad intra et ad extra. Ad intra, c'est-à-dire à l'intérieur de l'Église, il nous faut nous soutenir, il nous faut nous fortifier, il nous faut nous renforcer. Combien de chrétiens sont des chrétiens fragiles? Eh bien, il n'est pas normal qu'ils soient fragiles. Vous devez fortifier vos frères. C'est ce que je fais en prêchant, c'est ce que vous devez faire en les écoutant, c'est ce que vous devez faire en répétant la parole de Dieu et sa prédication si nécessaire. Voilà, nous sommes chargés les uns des autres dans une communauté qui doit nécessairement se renforcer pour que vive en elle la force du Christ. Eh bien, nous devons, y compris d'ailleurs en nous corrigeant les uns les autres, nous devons constituer cette communauté. C'est pas tout de rêver et de trouver que les communautés des premiers chrétiens, c'était magnifique, etc. Les premiers chrétiens vivaient ensemble, mettaient tout en commun. C'est la naissance des premières communautés religieuses. Alors, tout en restant dans ce monde, nous devons fortifier notre communauté. Votre charité doit s'adresser d'abord aux chrétiens. Vous devez d'abord penser au salut de leur âme. Vous devez vous soutenir les uns les autres. Vous devez faire vos courses chez des chrétiens. Vous devez encourager les chrétiens. Ne vous laissez pas avoir par un pseudo-laïcisme qui veut vous réduire à rien. Vous devez constituer en réalité dans ce monde une communauté chrétienne. Enfin, ou plutôt par ailleurs, à l'extérieur de cette communauté, nous devons témoigner de notre foi. Les deux images employées ici sont explicites. Pour que le grain de sénevé pousse, il faut que quelqu'un le plante. Si vous ne plantez jamais la graine de la foi, elle ne viendra pas au jour. Si vous ne la mettez pas dans le cœur de vos enfants, ils n'auront pas la foi. Si vous ne la mettez pas dans le cœur des autres, ils ne connaîtront pas Dieu. L'autre parabole, celle du levain enfoui dans la pâte. Que de bêtises on n'a pas fait dire à cette parabole. On en a tiré l'idée qu'il fallait s'enfuir et disparaître. Mais c'est ne pas connaître la cuisine. Le grain de le levain que vous mettez dans la pâte, qu'est-ce qui se passe quand vous le mettez dans la pâte? Il fermente, c'est-à-dire qu'il attaque tout et plus rien ne lui échappe. Et il transforme une pâte minable et informe en un gâteau magnifique et savoureux parce qu'il le fait grandir. Alors si nous sommes enfouis dans la pâte, et nous le sommes, parce que ici nous sommes rassemblés à l'intérieur de l'église, mais dehors, à part moi qui suis habillé en prêtre, personne, rien ne dira que vous êtes chrétien. Alors vous devez le proclamer, vous devez le dire, ne lésinez pas sur les moyens, vous devez toujours annoncer la parole de Dieu, sans cesse. Quand quelqu'un vous dit qu'il fait beau, dites-lui « oui, grâce à Dieu ». Si quelqu'un vous demande si vous allez bien, dites-lui « très bien, merci, grâce à Dieu ». N'oubliez pas de remercier le Seigneur et de l'invoquer en tout temps, pour que, ainsi et d'une manière relativement simple, vous puissiez déjà témoigner de Dieu, être vraiment ce ferment, pas un ferment pourri qui sert à rien, mais un ferment qui fermente, c'est-à-dire qui attaque avec vigueur ce qu'il touche. Voilà pour les moyens naturels. Bien entendu, mes bien chers frères, il nous faut nous en remettre aux moyens surnaturels. Vous avez entendu saint Paul, la foi, l'espérance et la charité, ce sont des grâces, des vertus surnaturelles infusées dans votre âme au jour du baptême, revivifiées à chaque communion, réparées à chaque confession. Cette grâce qui est déjà en vous, il faut que vous la fassiez, que vous la laissiez fructifier. Et ne vous y trompez pas, saint Paul le dit clairement dans son texte que je vous invite à relire aux Thessaloniciens. La foi produit des œuvres, l'espérance produit la constance, la charité produit des sacrifices. Voilà la clé de lecture sûre de savoir si les vertus surnaturelles en vous sont actives. Eh bien, la constance, les sacrifices et les œuvres. Remettez-vous-en à Dieu, car tout bien vient de Dieu. Nous ne faisons rien sans lui. Voilà ce que vous êtes venu demander une fois de plus avec humilité. Je dis humilité parce que une fois de plus, vous allez vous agenouiller autant que vous le pourrez pour recevoir la grâce des grâces, le Seigneur vraiment présent au milieu de nous. Il est l'auteur de toute grâce. N'hésitez pas à demander beaucoup pour la mission que je vous ai dressée. Il vous faut beaucoup de grâce. Le Seigneur peut toutes vous les donner. Ainsi soit-il.